Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09, c'est RMC. Merci d'être avec nous et bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous venez d'arriver chez nous, sachez que c'est le week-end des experts. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin. Et tout à l'heure, à partir de 8h, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour l'automobile. 2 heures entières dédiées à l'auto avec un spécial amortisseur tout à l'heure. Vous savez que les amortisseurs ont pour rôle de coller les pneus sur la route et leur état conditionne donc la tenue de route et du freinage. Donc ce sont vraiment des éléments de sécurité importants. On en parlera tout à l'heure. L'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Hyundai i20. Et puis, on vous donnera quelques conseils pour vidanger une boîte automatique. Voilà. Et est-ce qu'on doit le faire, surtout? Ce sera tout à l'heure. Et puis, toutes vos questions auto. Mais dans l'immédiat, deuxième partie de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout à l'heure, on évoquera les poules. On peut les dresser, les poules, avec le clic. Et ça s'appelle le clicker training.
Oui. Hein,
Laetitia.
Et c'est très efficace, vous allez voir.
On découvrira aussi un sanctuaire peut-être bientôt pour les dauphins. Et on va commencer par un grand événement. Hein. Ce sont les portes ouvertes pour l'adoption à la SPA.
Et voilà, elles ont lieu ce week-end. Alors, ce sont les traditionnelles portes ouvertes, mais c'est aussi l'ouverture d'un nouveau refuge. Et on va le découvrir avec David Legrand, qui est responsable du grand refuge SPA dédié à l'accueil des équidés. Et c'est à Pervenchères dans l'Orme. David, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci.
Alors, ce projet tenait vraiment à cœur à l'association, celui de premier refuge SPA pour chevaux, ânes, poneys et autres équidés, parce que d'habitude, ce sont plutôt des refuges pour chats et chiens. Alors, pourquoi il était urgent de l'ouvrir ?
Ben, il est urgent de l'ouvrir parce que, justement, on manquait de refuges équidés à la SPA, puisque nous n'en avions pas. Jusqu'à maintenant, on les mettait dans des pensions, mais on n'avait pas un suivi, je dirais, direct envers les animaux, et il fallait absolument qu'on puisse les placer, ces animaux. L'idée, c'est quand même de les remettre à l'adoption, de les mettre dans une famille. Et jusqu'à maintenant, c'était compliqué de les faire adopter. En les mettant sur un même lieu, on peut les connaître, les découvrir et les proposer à l'adoption en toute sécurité, surtout.
Alors, vous en avez plus de 130, hein, pour l'instant, pensionnaires, proposés à l'adoption. Alors, d'où viennent ces chevaux, ces ânes, ces poneys? Quelle est leur histoire?
Alors, ils viennent déjà de toute la France, hein, nous les accueillons partout en France. Leur histoire, en général, c'est que malheureusement, ils ont été délistés par leurs propriétaires, soit par manque de soins, soit par négligence. Souvent, les propriétaires prennent un équidé comme ils prennent une paire de chaussures et ils oublient tous les frais qui engendrent d'avoir un animal.
Ce sont des saisies?
En général, c'est des saisies judiciaires, exactement. Mm.
Et donc, quand ils arrivent chez vous, ils ont quel âge? Ils sont dans quel état?
Alors malheureusement, en général, ils sont déjà d'un certain âge. Oui. C'est très rare qu'on ait des petits, jeunes. Après, ça nous arrive d'avoir par contre des mères avec leurs poulains. Ils naissent sur place ici, hein, ça nous est arrivé. C'est souvent des animaux fragiles, justement, parce que ils sont âgés, sans soins. Donc, ils arrivent dans des états pitoyables. Souvent, ils manquent de soins. Ils sont des fois aveugles. Ils ont de grosses pathologies. Hein. On a même des pathologies qu'on découvre ici en arrivant. Les vétérinaires nous disent... Mais on n'a jamais vu ça, hein. C'est atroce. Voilà, on trouve des solutions pour les soigner, on les sauve, mais ça prend énormément de temps, des fois plusieurs mois.
Et psychologiquement, ils sont dans quel état?
Ah ben, ils sont très, 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 très...
Marqués,
faibles. Psychologiquement, il faut des mois et des mois. Certains, on sait qu'ils ne repartiront pas du refuge, hein, parce qu'ils ne veulent plus avoir contact avec l'homme. Donc, on les laisse tranquilles ici. Nous, on arrive à prendre un petit contact avec eux pour faire les soins le minimum, je dirais. Mm-hmm. Mais ils veulent vraiment plus avoir affaire à l'homme. Certains autres sont dans les mains d'un éthologue, hein, qui vient tous les après-midi au refuge et qui leur redonne confiance pour pouvoir justement les reproposer à l'adoption en toute sécurité.
D'accord. Alors, on sait comment est un refuge pour chien-chat. Comment est un refuge pour chevaux? Est-ce que c'est une grande écurie?
Alors c'est oui, ça ressemble finalement à une écurie, à un rat. C'est 130 hectares de pâture verdoyante.
Oui.
En Normandie, ça va, il pleut assez souvent.
Ça va, ça va. Vous avez choisi la bonne région quand
c'est
même.
Ça, hein. On s'est pas trop trompé. Et puis c'est 63 box pour les plus fragiles. L'idée, c'était quand même qu'ils vivent dans des prairies avec abri. Il était évidemment pas question qu'ils restent enfermés dans un box.
Hein. Oui, j'imagine.
C'est vraiment qu'ils se promènent, qu'ils soient libres dans les prairies. Et c'est 15 soigneurs au quotidien qui les surveillent et qui les soignent.
15 soigneurs quand même.
Oui.
Et si on veut adopter un cheval, un âne, alors je sais pas, vous avez des chevaux, des ânes, des poneys, vous avez...
Tout à fait, chevaux, ânes, poneys, mulets.
Mulets aussi, d'accord.
Et oui.
Et c'est bien parce que par exemple les mulets, on peut faire de la randonnée avec. Voilà. Quelles sont les conditions pour adopter chez vous?
Alors les conditions, c'est que bah, on prend contact avec nous, hein, téléphone, internet, où on peut maintenant venir sur place.
Oui.
À la suite de ça, on remplit un petit questionnaire de demande d'adoption. Une personne du refuge fera une pré-visite, puisque l'idée c'est quand même de faire une pré-visite chez les personnes.
Oui, parce que c'est pas comme adopter un chat. Il faut quand même s'assurer qu'il y a assez d'espace chez la personne qui veut adopter pour le cheval.
Exactement. C'est pas, on peut pas arriver et dire j'ai un coup de cœur pour celui-ci, je repars avec. Ça c'est pas possible puisque nous on doit aller vérifier que les personnes ont le lieu adapté pour l'équidé qu'ils recherchent.
D'accord.
Donc ça prend un petit peu de temps. Une fois que nous avons vu ce lieu, ben il suffit d'avoir le coup de cœur ici. Donc on leur présente tous les animaux qui, par rapport aux critères et à la famille qui se présente devant nous, correspondent à leur recherche. Et une fois le coup de cœur, on leur amène l'équidé chez eux et on voit comment ça se passe chez eux. Bien évidemment, il y a un suivi. Hein.
Oui, il y a un suivi après.
Tout à fait. On prend déjà des nouvelles quelques jours après pour savoir si tout se passe bien. Et on retourne les voir entre 6 à 8 mois après pour s'assurer que l'animal va bien, que tout se passe bien et que vraiment l'adoption est une adoption réussie.
Et vous avez eu beaucoup d'adoptions réussies. Alors je sais que c'est tout jeune, là, votre refuge, mais je sais que vous avez fait des adoptions en 2016.
Tout à fait, on a déjà fait 31 adoptions.
Ah, c'est beaucoup hein, pour des chevaux.
C'est beaucoup, on ne s'attendait pas autant, honnêtement. On est content parce qu'il nous faut toujours plus de place, malheureusement. Mais pour l'instant, tout se passe bien. On n'a pas eu de problème particulier, tous sont heureux.
Alors, je pense qu'il y a des amoureux des chevaux qui vous écoutent et qui veulent peut-être venir vous aider. Est-ce qu'on peut être bénévole dans votre grand refuge? Parce que ça change des refuges chien-chat.
Ça change des chiens-chats, mais bien évidemment, on peut être bénévole. Au contraire, nous en avons déjà quelques-uns, une trentaine quasiment. Les bénévoles font, alors pas forcément les mêmes tâches que dans un refuge à chiens, mais nous aident au quotidien sur la structure, dans les tâches du quotidien de la structure, les box, soigner les animaux, en prendre soin, les promener pour ceux qui ne peuvent pas partir dans les pâtures et peuvent être juste promenés. Ils nous aident à l'entretien du domaine. On a également une ferme où il faut de l'aide. On a le téléphone qui sonne beaucoup quand même, et tant mieux. On a un site internet. Enfin, il y a plein d'activités sur le refuge, même si on n'a pas forcément les connaissances dans les équidés, on a du travail pour tout le monde et la SPA c'est une association, il ne faut pas l'oublier, donc on a besoin de bénévoles et c'est grâce aux bénévoles qu'on peut faire tourner justement l'association.
Et vous recherchez perpétuellement des gens j'imagine?
À tout le temps,
d'accord.
Le temps.
Alors vous êtes, pour préciser, près d'Alençon, hein, c'est ça, à Pervenchère dans l'Orme.
Exactement.
Voilà.
Très bien.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, David Legrand.
Voilà, portes ouvertes aujourd'hui dans ce refuge et dans les autres refuges SPA, bien sûr.
Partout en France.
Voilà, et je vous invite bien sûr à adopter un animal, que ce soit un chien, un chat ou un cheval ou un âne ou un mulet, bien entendu, si vous pouvez, et à vous rendre dans ces refuges et dans d'autres refuges aussi. Merci, David. Bonne
Merci
journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
On revient dans un instant, Laetitia, il est 7h17. Après les chevaux, on va s'intéresser aux dauphins.
Ah oui?
Oui.
C'est bien, on zappe, hein, voyez, dans l'émission.
Voilà, c'est ça.
Enfin, c'est des gros animaux aussi. Hein,
mais... Et nous aurons la présidente de l'association Cétacie dans une minute. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous joindre ce matin. 3216 ou bien animaux@rmc.fr. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
C'est heure 19, le retour du week-end des experts, les animaux. Dans quelques instants, la météo et les infos de 7h30. Tout à l'heure, on rencontrera un personnage étonnant puisqu'il va nous apprendre à dresser des poules grâce au clicker training. Laetitia, alors je ne savais pas déjà qu'on pouvait dresser des poules, mais ben on peut les dresser avec, vous savez, ces petits appareils qui font clic, 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 comme ça.
Et en fin de compte, on peut dresser tous les mammifères, tous les oiseaux, et d'ailleurs les dresseurs animaliers pour le cinéma connaissent bien le clicker training, qui est une méthode douce pour dresser les animaux.
Bien sûr.
On va le découvrir.
Notamment, il y a pas mal de dresseurs de chiens qui se servent de ces clickers. Et bien, ça marche aussi pour les poules, visiblement.
Et ça marche pour les dauphins.
Et ça marche aussi. Et oui,
voilà.
Bien sûr, c'est vrai.
Et oui, dans les delphinariums aussi, ils utilisent beaucoup le clicker training. Et justement, nous allons parler des dauphins. Et nous sommes avec Frédéric Gilbert, qui est présidente de l'association Cetaci, qui est une association dédiée au mieux-être des mammifères marins et la création d'un refuge. Alors, on va en parler avec Frédéric. Frédéric, bonjour, bienvenue.
Bonjour. Merci.
Alors, votre association fête ses 1 an. Elle s'est donnée pour mission de créer le premier refuge pour mammifères marins. Alors, comment est né ce projet ?
Alors, il y a eu plusieurs événements et rencontres qui ont contribué à la naissance de Cetaci. Mais c'est vraiment un appel qui a donné un coup d'accélérateur au projet. C'est une soigneuse de dauphins qui m'avait contactée pour l'aider à trouver un refuge pour une femelle échouée à l'âge de 7 mois. Mmh. Elle était seule et trop jeune et finalement, elle n'a jamais pu retrouver le milieu naturel. Et cette histoire m'a vraiment confortée dans l'idée que je ne devais jamais laisser tomber. En fait, l'association aurait pu s'appeler Martina, le nom du dauphin.
Oui. Et alors, mais quelle est vraiment l'essence de ce refuge ? Pourquoi un refuge pour les dauphins ?
Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a maintenant beaucoup de dauphins qui naissent en captivité.
Oui.
Il y a une surpopulation, surtout des mâles pour l'instant. Et puis, il y a des parcs qui ferment également.
C'est-à-dire que
voilà.
quand un petit naît dans un delphinarium, bien sûr, il n'y a peut-être pas la place pour tous les dauphins qui naissent. Donc, du coup, ils sont obligés de faire des échanges ou de les donner à d'autres delphinariums. Et,
voilà.
Et des fois, il n'y a pas de place, en fin de compte.
Il n'y a pas de place ou il y a des problèmes de consanguinité. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et, voilà,
Mais que deviennent ces animaux, alors ?
C'est le problème de place, justement. Ou bien ouvrir un autre delphinarium. Mais franchement, maintenant, je trouve ça un peu dommage d'ouvrir un autre delphinarium alors qu'il y a maintenant d'autres possibilités, quoi. Donc, c'est pour ça l'idée du refuge dans un milieu semi-naturel, en fait.
Alors, comment voyez-vous ce refuge en semi-naturel, comme vous dites ? Donc, ça veut dire que c'est un refuge, c'est pas des bassins ? Ce ne sont pas des bassins.
C'est pas des bassins, donc c'est en milieu naturel, dans la mer, dans un lagon ou
dans une baie,
quelque chose d'ouvert. Voilà, dans une baie. Donc c'est avec des filets, des pontons, où il n'y aura pas de contact. Enfin, le projet Cetaci, c'est vraiment pas de contact direct avec des visiteurs, donc pas de nage ni spectacle.
Oui, parce que ça, on a dans certaines baies des comme la thérapie aussi avec les dauphins, ça se fait beaucoup dans certains pays.
Donc en fait, c'est vraiment on aura des recherches, des programmes scientifiques notamment sur la réintroduction.
Oui.
Donc ces études seront menées en outre par Véronique Servet, chercheuse et professeure à l'université de Liège en Belgique.
Oui.
Et ces recherches aussi seront aussi très bénéfiques pour la conservation active d'une sous-espèce de dauphin que l'on retrouve notamment que l'on retrouve en mer Noire d'ailleurs, pas notamment en mer Noire. C'est grâce à notre partenariat avec un beau projet d'un biologiste allemand, Benjamin Schulz, qui a un projet de conservation pour cette espèce. Et c'est une autre dimension. Donc, on arrive avec une autre dimension. Mais les visiteurs pourront observer avec des jumelles ou un peu plus loin. Donc, ce sera vraiment intéressant pour l'éducation aussi. Donc, c'est vraiment l'éducation, la recherche et la conservation. Et c'est vraiment, normalement, les rôles des parcs, hein.
Alors, expliquez-nous aussi pourquoi on ne peut pas purement et simplement relâcher ces dauphins en surnombre dans les delphinariums, dans la nature.
Alors, parce qu'ils n'ont pas les codes, ces animaux ne peuvent pas survivre dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas se protéger ni se nourrir seuls. Ils ne connaissent pas les codes du milieu naturel.
Oui.
Donc,
est-ce que vous avez une idée du lieu où pourrait ouvrir ce refuge ?
Alors, je vous dis, hein, le lieu, ça sera vraiment dans un lagon ou dans une baie. Ça sera à l'abri des
Mais vous avez une idée. Vous connaissez
on a,
le...
on a une...
Parce que
on
vous connaissez
idée,
bien les mammifères marins, et je pense que vous avez été un petit peu partout dans le monde les voir. Donc, est-ce que vous avez une idée?
Ça
n'est pas facile à trouver, cela dit.
Non, c'est pas facile à trouver. Et là, pour l'instant, vraiment, on a deux, trois lieux dans l'idée, mais qu'on n'a pas envie de dévoiler maintenant, parce que c'est vraiment à l'étude et c'est vraiment... Oui. Mais de toute façon, il faut vraiment suivre l'association et on met toujours des nouvelles quand il y a quelque chose de sûr qui se précise. Donc on a envie que ça soit en Europe, pas spécialement en France. Hein. Si c'est en France, c'est magnifique. Hein. Et il y a vraiment beaucoup de changements pour l'instant en France. Et donc j'ai été reçue au ministère de l'Environnement.
Oui. Je crois qu'il y a un projet de loi sur les delphinariums.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, donc, on veut les interdire ou parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui veulent, qui militent pour qu'on interdise ces delphinariums. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes dans ces delphinariums avec des dauphins ou des orques.
Oui, tout à fait. Donc maintenant, la loi dit qu'il est interdit la reproduction des orques en captivité en France. Voilà.
Mais est-ce qu'elle va interdire l'ouverture de nouveaux delphinariums?
Pour l'instant, pas encore, non.
Non,
par contre, le fait de voir les parcs marins semi-naturels a été fortement mis en avant.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment, ouais.
Et le ministère de l'Environnement le voit d'un bon œil?
D'un bon œil. Et il y a une sénatrice qui était vraiment engagée pour ce genre de projet. Donc vraiment, j'ai été vraiment étonnée et ravie d'entendre ça, parce que voilà, je venais avec moi le projet de Cetacy, et je trouve que c'est quand même un pas en avant, quoi. Bon, ça existe aux États-Unis, ça existe dans d'autres pays, ce genre d'endroit. On a vu que ça marche très bien, et voilà, pourquoi pas le faire en France, hein.
Ça serait bien.
Ça serait
une solution pour tous ces dauphins qui sont en captivité. Ça serait et orques et voilà, ça serait une solution.
Oui, orques en France, je le vois pas trop. Et
mais plutôt des.
Les dauphins, voilà. Mais les dauphins, les orques, il faudrait peut-être les envoyer ailleurs, mais pas en France en tout cas. J'imagine mal les orques en Méditerranée. Et puis il faut vraiment quelque chose d'énorme. Vous imaginez un refuge pour les orques?
Eh oui, ça prend de la place.
Ça prend de la place. Et Cetacy, ne va pas accueillir des orques. Donc.
Merci beaucoup, Frédéric Gilbert. Merci.
Je vous en prie.
Merci.
Présidente de Cetacy.
Merci, Frédéric. Merci. Alors, si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site de Cetacy. Cetasea.
Et oui, la scie comme la mer.
Exactement. Voilà.
Ça tombe bien parce que nous sommes assis. Bon, Laetitia, on revient dans un instant. On va peut-être se mettre debout pour aller prendre un café.
Oui,
on revient. Et on évoquera les poules dans un instant. Vous savez qu'on peut dresser des poules.
Ah oui.
Et bien voilà. Et on va vous
Mais
expliquer.
Mais qu'est-ce qu'on peut leur apprendre?
Ben voilà, c'est ça, à faire des œufs à la demande. Allez, fin neuf.
Je pense pas.
On va voir ça dans un instant après la météo et les infos de 7h30 sur RMC. C'est le week-end des experts, c'est les animaux. Merci d'être là, tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Il est 7h32, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, jusqu'à 8h. Et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Comme tous les dimanches matins, on parlera entre autres d'amortisseurs tout à l'heure. Laetitia, on va maintenant s'intéresser aux poules. On en parle de temps en temps dans ce rendez-vous animaux. C'est un animal bien sympathique qui revient à la mode en plus. Hein, ça peut être sympa d'avoir une poule si
et
on a
des œufs.
Un petit jardin, etc. On peut même dresser ces poules.
Eh oui, et Patricia Rérol nous aide à dresser les poules. Patricia Rérol, qui est éducateur canin, intervenante en comportement, et qui a ouvert dans les Yvelines une école de clicker training pour poules, mais aussi chats et chevaux. Patricia, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, Laetitia.
Alors, vous organisez des chicken camps. Alors, c'est des formations au clicker training sur des poules, ou alors vous apprenez des cours, enfin vous apprenez des choses aux poules, mais en douceur. Alors d'abord, dites-nous ce qu'est le clicker training. Alors comment ce petit objet qui est le criquet là, cette petite lamelle métallique qui fait clic, peut aider à apprendre des choses aux animaux.
Alors, le clicker training, c'est une méthode de dressage ou d'apprentissage qui est très respectueuse de l'animal et qui est de plus en plus utilisée pour l'éducation des chiens. Mmh. En fait, ça marche...
Qui est utilisée aussi pour les dresseurs animaliers au cinéma.
Ah, partout. Pour tout animal, c'est très efficace. Alors, le clicker training, c'est quoi? Effectivement, c'est un petit bruit qui est reproductible avec ce petit objet, qui dit à l'animal, ce comportement que tu viens de faire est très bien et tu vas être payé pour ça avec une récompense. Ce qui fait que l'animal, secondairement, va essayer de reproduire le comportement.
Pour avoir la récompense.
Pour avoir encore la récompense, voilà. Alors, il faut savoir que le clicker training, c'est pour apprendre un comportement, mais on ne passe pas toute sa vie avec un clicker dans sa poche en permanence. Hein. C'est
Donc,
sûr.
Et il y a la deuxième phase, parce que s'il a compris, si vous faites clic... ça reproduit le comportement, c'est ça?
Oui, comment tout ça à fait. Se passe? C'est-à-dire que l'animal recherche à reproduire,
oui,
parce qu'il a été renforcé, oui, par le comportement, et le clic, c'est un marqueur en fait du comportement.
D'accord.
Il lui dit c'est précisément ce moment-là qui est bien et que tu dois refaire.
Tiens. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre à une poule?
Alors une poule, on peut apprendre à tourner sur elle-même, on peut apprendre à reconnaître une carte dans un jeu de cartes complet, parce qu'ils ont, les poules ont une discrimination de couleurs très, très intéressante.
C'est-à-dire que vous mettez trois as de couleurs différentes et...
par exemple, vous mettez une dame de cœur dans un jeu complet, la poule va reconnaître, chercher la dame de cœur et la piquer.
Ah oui.
Elle peut tourner sur elle-même.
Oui.
Elle peut reconnaître des jetons de couleurs et mettre un jeton dans une boîte de même couleur, et puis elle peut faire des mouvements spontanés, tourner sur elle-même, monter sur votre bras et
tout ça avec le clicker training.
C'est bizarre parce que c'est vrai que la poule a une image d'un animal pas très intelligent, mais cela dit, lorsque vous nous dites tout ça, c'est pas mal quand même.
Ah bah oui, mais en plus vous savez, une poule c'est très attachant. Alors le but c'est pas de dresser une poule, hein, c'est bien sûr. Le but en fait c'est de montrer qu'on peut apprendre à une poule, même une poule, parce qu'on pense justement qu'elle est complètement idiote,
et
à faire
envelé.
Des choses, cervelée, oui, à faire des choses vraiment impressionnantes.
Eh oui. Et combien de temps ça prend pour lui apprendre, par exemple, à tourner sur elle-même ou
Alors tourner sur elle-même, c'est très rapide. On peut faire une journée.
En une journée.
Enfin, petite séance. Hein.
D'accord. Oui, parce que son attention est pas non plus d'une heure, quoi. Une poule.
Non. Il faut mieux faire des petites séances,
oui,
de 3-4 minutes, plusieurs fois par jour.
C'est un peu comme pour les chiens.
Oui, tout à fait, exactement. Oui. Et en plus, entre les différentes séances, il y a une intégration au niveau du cerveau et finalement l'animal apprend beaucoup plus vite.
Et alors, c'est quoi la friandise de la poule pour la stimuler?
La friandise de la poule, c'est des graines.
Tout simplement.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, vous enseignez aussi le clicker training sur les chevaux, sur les chats. Qu'est-ce que vous pouvez leur apprendre avec le clicker training? Et surtout, est-ce que l'apprentissage est différent par rapport à la poule?
Voilà. Alors, sur les chevaux et les chats, effectivement, donc la méthode du clicker training ne change pas.
Oui.
Sauf qu'un cheval, bien sûr, c'est beaucoup plus important et ça peut être beaucoup plus dangereux. Donc avec les chevaux, dans un premier temps, on apprend toujours les attitudes calmes.
Oui.
On apprend la politesse, c'est-à-dire qu'on apprend à un cheval de ne pas venir mordre, prendre des friandises, etc. On apprend à ce qu'il soit bien posé sur ses quatre pattes, qu'il n'avance pas.
Oui.
Ça, c'est, voilà.
Ça, on peut l'apprendre avec le clicker training.
Ah, tout à fait. Mmh. Voilà. En plus, les chevaux, on peut leur apprendre avec le clicker training à donner leurs pieds pour curer les pieds sans qu'ils soient agités. Mmh. Il faut savoir que le clicker training, ça agit beaucoup sur l'état émotionnel des animaux parce que ça augmente la dopamine, en fait, qui est l'hormone du plaisir.
La récompense, oui, du plaisir.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire donc, que dès que vous cliquez, il y a la dopamine qui remonte.
Oui, tout à fait.
Faudrait
voilà,
l'utiliser. Non, mais on va l'utiliser avec nos conjoints. Hein.
Mais, tout à fait, d'ailleurs. Il y a des pays où ça s'utilise. On vient des humains.
Vous arrivez à dresser des hommes avec des clics, Patricia.
Ben, écoutez, on pourrait le faire sans problème.
Ah ouais?
Je veux bien être votre cobaye pour voir si ça marche.
Mais ça marche si la récompense est stimulante. Donc, tout dépend de la récompense.
Alors après,
voilà.
Effectivement, faut bien savoir choisir le renforcement pour l'humain. Ça, c'est sûr.
Bah, une petite friandise, ça peut le faire.
Ça dépend ce que vous appelez une friandise.
Voilà, exactement. Vous savez, il y a différentes sortes de motivation. Hein, donc, il faut bien utiliser
ce qui motive le plus.
Que l'animal désire.
Mais si le clicker encourage les bons comportements, comment punir les mauvais comportements? Enfin, punir entre guillemets, hein, comment éviter les mauvais comportements? Parce que justement, le clic ne dit pas là, t'as mal fait, là, tu m'as mordu, t'as mal fait. Donc, le clic ne le fait pas, ça.
Voilà. Alors déjà, premièrement, faut d'une façon générale anticiper un peu les bêtises, en fait. Par exemple, c'est inutile de laisser un morceau de poulet sur une table basse et de partir. C'est clair que
le chien va manger.
On engage le chien à faire des bêtises, donc après on le punit. Donc il faut essayer d'anticiper au maximum. Et la punition, c'est en fait la punition que l'on utilise en clicker training, c'est de retirer les choses agréables. Comme un chien est un animal très social, on l'isole. On l'isole dans une pièce tout seul pendant 5 minutes. Et surtout, on ne renforce jamais un mauvais comportement. Parce que finalement, un chien apprend tout le temps. Et par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Quand les chiens sautent sur les gens, ils l'ont appris grâce à nous, en fait. Ils n'ont pas appris tout seul.
Oui, on les a caressés petits. Alors,
exactement. Donc en fait... S'ils font ça, alors ce qu'il faut, c'est surtout valoriser le fait qu'ils aient les 4 pattes par terre. Donc, on clique les 4 pattes par terre. Donc, ça évite de punir quand ils sont en hauteur. Et puis, autrement, par exemple, chez les chiots, on les isole très facilement.
Et les chats, qu'est-ce qu'on peut leur apprendre avec le cœur
Les chats, on apprend exactement la même chose qu'avec les chiens. Le rappel... on peut apprendre des choses un peu fun comme le high five. Alors, la difficulté des chats, c'est en fait de justement, comme un peu chez l'humain peut-être, c'est de trouver la bonne motivation. Voilà.
ils font rien pour rien, hein, ça c'est sûr.
Exactement.
Hein.
Mais personne ne fait jamais rien pour rien. Mais les chiens c'est plus facile parce que c'est gourmand. Alors, avec le clicker, on peut utiliser. Plein de motivations différentes. Il n'y a pas que la nourriture. Il y a le jeu. Il y a ce que l'animal désire, etc. Voilà.
Et les chats, qu'est-ce qu'ils aiment le mieux, alors? Qu'est-ce qui marche le mieux?
Souvent, c'est le jeu, en fait.
Ah oui?
Le jeu.
Et pas le morceau de poulet?
Pas toujours. Les chats, pas toujours. En plus, il faut vraiment varier avec la nourriture avec les chats.
Ah oui.
Mais ça peut être la nourriture. Ça dépend des chats. Mais le jeu, ça marche pas très bien. Parce que les chats, c'est un peu lent, un peu paresseux. Le jeu permet d'avoir une petite excitation, de les entraîner un peu plus dans l'apprentissage.
D'accord. Et quelles peuvent être les applications pratiques pour les chiens du clicker training? Est-ce que ça peut... parce que je sais que de plus en plus d'éducateurs canins connaissent cette méthode et l'utilisent.
Oui, tout à fait. Alors, premièrement, clicker training, c'est 40 fois plus rapide que toutes les autres méthodes.
Ah oui?
En plus, c'est une méthode absolument respectueuse, donc qui ne favorise pas l'agressivité, qui donne un bon état émotionnel avec le chien, qui donne une bonne relation du propriétaire avec le chien. Donc, il n'y a pratiquement que des bénéfices. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on laisse tout faire. Parce que beaucoup de gens disent, ah oui, les gens qui font les clickers, les chiens font ce qu'ils veulent. Non, pas forcément. Mais ce qu'il faut, c'est avoir ses propres règles. Et puis donc travailler en ce sens, en fait.
Mais qu'est-ce qu'on peut lui apprendre au chien?
Chien, alors par exemple, si vous voulez, on utilise le clicker en agility, on utilise le clicker en dog dance, en obérythmé. On utilise le clicker pour l'obéissance pure, même dans les concours. On utilise le clicker en permanence, en fait. Et on utilise maintenant le clicker beaucoup dans le comportement, pour les chiens réactifs, pour les chiens peureux. Donc c'est une méthode qui se développe de plus en plus et qui est vraiment très intéressante.
Mais il faut avoir quand même un apprentissage avec un éducateur, hein, parce qu'on peut pas arriver avec son cliqueur et se dire
voilà, ça, ouais.
Voilà. Parce que là on peut faire des erreurs justement.
Ah, on peut faire des erreurs. Le cliqueur, si c'est bien fait, c'est formidable, mm-hmm. ça donne des résultats magnifiques. Par contre, si c'est mal fait, ça n'a aucun intérêt.
D'accord.
Eh bien, merci beaucoup.
Comme toute méthode.
Merci Patricia.
Alors, merci Patricia. Donc, je rappelle que vous faites justement des formations de clicker training. Alors, vous, c'est plus les poules, les chats et les chevaux. Et puis après, ben, quand on a la méthode, c'est vrai qu'on peut l'appliquer aussi aux chiens. Je vous conseille d'aller voir un site qui s'appelle centredubienêtreanimal.com où il y a justement toutes ces formations. Merci Patricia. Bonne journée.
Merci. Il est 7h43. Laetitia, puisqu'on parle de clic, je vous rappelle que vous pouvez aller sur www.rmc.fr pour retrouver là en l'espace d'un clic
c'est vrai.
Alors qu'il ne fera rien pour la poule mais qui pourra peut-être vous faire plaisir puisque vous pouvez retrouver tout au long de la semaine.
Vous aurez la récompense.
Voilà, en podcast, les podcasts des émissions du week-end et notamment celle de vos animaux avec Laetitia Barlerin. On revient dans un instant avec Angélique qui se fait mordre par son chat, visiblement.
Ça, c'est pas bien. Faut sortir le clicker training.
Laetitia va analyser tout ça, les amis. On revient dans un instant. 3216, animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Il est 7h46, c'est RMC, le week-end des experts et les animaux. Encore un petit quart d'heure à passer ensemble avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Et puis ensuite, on changera d'univers. Comme chaque dimanche, Jean-Luc Moreau me rejoindra pour 2 heures dédiées à l'automobile et vos questions auto au 3216. Laetitia, nous allons accueillir Angélique maintenant. Bonjour Angélique.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Angélique. Alors, vous avez un chat qui mord.
Voilà. En fait, c'est celui de ma tati, en fait.
Oui.
Voilà, parce qu'elle m'en a parlé. Et en fait, le chat, il est très mignon. En fait, elle l'a adopté quand il avait 2 mois.
Oui.
Et maintenant, il a 8 mois, à peu près.
8 mois.
Et voilà. Et il a mort toujours, quoi. En fait, des fois, il se laisse caresser, mais il a mort, quoi. Et il prend comme souris, que, par exemple, sa main, quoi.
Mais voilà. C'est au moment où elle joue avec lui ou elle le caresse seulement?
En fait, des fois, elle le caresse et du coup, il a mort. Et des fois, quand il joue, ça va,
il meurt
très très souvent, même des fois elle me dit c'est drôle, je croyais pas que ça allait être comme ça, et parce qu'elle a jamais eu un animal comme ça, et il a mort très très souvent, quoi. Donc ouais. Voilà, et je trouve ça bizarre parce que mon chat ne me l'avait jamais fait ça, en fait. Bah, ça... il faisait que surtout quand il voulait pas être ennuyé ou carrément je m'ennuie, quoi. Occupe-toi de moi, quoi, mais pas c'était pas du tout souvent, quoi. Mais... et lui, c'est très 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 souvent, quoi.
Alors il a 8 mois, ce chat, et c'est un jeune chat. Je pense qu'il n'a pas encore le contrôle de la morsure. Ce qu'on appelle le contrôle de la morsure, c'est que simplement il sait pas qu'il fait mal. Voilà, tout simplement. Normalement, le contrôle de la morsure, ils l'apprennent avec la maman d'abord, avec la chatte. Alors peut-être que, elle l'a adopté à 2 mois, ce qui est très bien. C'est l'âge où il faut adopter le chat, entre 2 et 3 mois. Mais peut-être que la maman a été assez laxiste avec son chaton, ou qu'elle n'a pas été très présente. En tout cas, normalement, le chaton, vous savez, quand il est avec sa maman, quand il commence à jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il mord la queue de la maman.
Ben oui.
Et la maman, ça lui fait du mal. Donc,
allez,
qu'est-ce qu'elle fait?
Paf.
Oh, une baffe. Hein, c'est pas le clicker training, là.
C'est une claque.
C'est une claque, quoi. Donc, le chaton comprend que il a fait mal. Tout comme le chaton, quand il a des frères et sœurs, il joue avec les frères et sœurs. Et puis, vous savez, quand ils se bagarrent, enfin, ils jouent à se bagarrer, ils se mordent. Mais ils savent pas qu'ils font mal. Par contre, si l'autre, le frère ou la sœur, lui rend l'appareil, il se dit, ah oui, là, j'ai été un peu trop loin. Donc, ça lui apprend justement à maîtriser sa mâchoire, ses morsures. Et cet apprentissage doit être poursuivi par le maître quand il adopte le chaton. Parce que quand le chaton commence à mordre, il lui dit non, il lui donne une petite pitch sonnette sur le nez en disant non, là, t'as trop fait. Et donc, il comprend qu'il fait mal. Alors là, dans votre cas, le chaton n'a pas compris. Donc, il n'a pas été éduqué. Et puis, quand il est surexcité, par exemple, dans un jeu, et ben, il commence à mordre parce qu'il est dans l'excitation. Tout comme quand on le caresse. Vous savez, le seuil de tolérance aux caresses est complètement différent d'un chat à un autre. Il y a des chats qui peuvent se laisser caresser pendant des heures. Il y en a d'autres qui, au bout de 3 caresses, bah, c'est top. C'est trop, on arrête là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils mordent pour arrêter la main. Bon. Alors, ce que vous allez demander à votre tati de faire, d'abord, c'est d'éviter les jeux avec les mains. Et plutôt avoir des jeux où, par exemple, on lance une souris, on lance une balle, ou alors un jeu avec une canne à pêche, vous voyez. Donc là, le chaton ne peut pas se aller sur la main de la personne. Soit le stylo laser aussi, ça c'est pas mal. Moi j'aime bien ça parce que il suit la boule lumineuse, ça le défoule parce qu'il faut qu'il se défoule, et en même temps il peut pas attaquer la main. Ensuite, concernant les caresses. Quand elle le caresse, si elle voit que la queue commence à bouger, ça ne veut pas dire que le chat est heureux. Ça veut dire que le chat commence à s'exciter, voire même à un signe d'impatience. Et là, il faut arrêter de le caresser. Ça, c'est vraiment la règle. Hein. Dès que le chat a la queue qui bouge, on arrête de caresser, sinon on se fait mordre après. Et s'il mord, ce qu'il faut faire, c'est dire non, lui donner une pitchenette sur le nez et arrêter tout contact avec le chat. C'est-à-dire arrêter le jeu ou la caresse, etc. avec le chat. Comme ça, il va comprendre que dès qu'il mord, eh ben, il a plus de contact avec sa maîtresse, que c'est bien embêtant parce qu'il adore sa maîtresse, et il va petit à petit comprendre qu'il faut pas qu'il morde. Et alors, une dernière chose aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de le mettre en contact avec un chien qui aime les chats ou un chat équilibré, parce que dans les jeux qu'il va avoir avec l'autre animal, eh ben, l'autre animal, dès qu'il va sentir la morsure, il va lui donner une baffe, hein, on va dire, ou il va l'arrêter, et il va comprendre que là, il dépasse les bornes, et que oui, ça fait mal de mordre son compagnon de jeu, ou sa maîtresse.
Merci beaucoup, Angélique. Laetitia, on va accueillir maintenant Maggie, qui nous a appelé au 3216. Bonjour, Maggie.
Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de me prendre à l'antenne.
Bonjour, Maggie. C'est normal. Merci de nous appeler et de nous écouter surtout, Maggie.
Voilà, ma question est toute simple. C'est que j'ai un cavalier King Charles qui est adorable, qui ne m'a jamais posé de problème.
Oui.
Il a 4 ans.
Oui.
Et depuis peu, je le trouve très excité. Voilà, il fugue alors qu'il ne fuguait pas.
Oui.
Et vendredi, je l'ai perdu carrément. Oui. J'ai cherché pendant 2 heures.
Oui.
Et puis, enfin, j'ai compris pourquoi. Parce que, voilà, mon voisin a une petite
chienne
qui est en chaleur.
Ah, ben voilà.
Oui. Et donc, ils ont échappé tous les deux.
Eh ben oui. Oh là là, ça va donner des croisés.
Ah oui,
Je ne sais pas ce que ça va donner.
Ils ont fait leur affaire, j'en sais rien.
Il y a des chances quand même.
Ils ne vous l'ont pas dit.
Sauf s'ils sont stérilisés. Mais
quel comportement dois-je adopter devant cette excitation?
Eh bien, c'est normal. Il est amoureux.
C'est la nature.
Alors, le problème, c'est que non seulement il va être amoureux de cette petite Jack Russell, mais il peut être aussi amoureux de d'autres chiennes
bien
dans
sûr.
Le quartier. Puis alors, souvent, vous savez, quand une chienne dans un quartier est en chaleur, ça entraîne...
C'est la fête.
Parce qu'il y a des phéromones sexuelles.
Ça peut précipiter.
Oui, ça peut vraiment enclencher les chaleurs chez les autres chiennes du quartier.
C'est incroyable.
Alors souvent, quand deux chiennes vivent ensemble, elles ont leur chaleur ensemble.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Maggie? Soit vous l'enfermez à double tour, vous voyez ce que je veux dire. Soit, si vous pouvez faire ce qu'on appelle une stérilisation, mais chimique, réversible. C'est ce qu'on appelle, j'en parle très souvent, un implant contraceptif. Alors, ça va éviter d'abord... Alors, c'est un implant que l'on injecte sous la peau, un petit peu comme une puce électronique. C'est un implant qui est biodégradable, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, ça dépend de l'implant que vous prenez, ça va se biodégrader et du coup il va redevenir comme avant, c'est-à-dire normal, fertile. Mais ce qu'il y a bien avec cet implant, c'est que non seulement ça va diminuer, ça va éviter qu'il soit fertile, donc ça va diminuer le taux de spermatozoïdes, mais ça va diminuer aussi les hormones sexuelles mâles, et du coup il ne s'intéressera plus aux femelles, et du coup il sera plus amoureux, et du coup il ne va plus fuguer, parce que là ce qu'il veut, c'est pas il va pas continuer à fuguer s'il n'y a pas d'autres femelles, mais là c'est l'amour, c'est pour ça qu'il
avec
fait le
un
mieux.
Grand A.
Ben oui, bon, alors le problème du chien, c'est que il est pas très fidèle. Donc c'est comme je vous dis, Maggie, faites attention, il y a peut-être d'autres femelles qui vont rentrer en chaleur après cette petite chienne Jack Russell. Et du coup, il va pas arrêter là. En plus, c'est vrai qu'au printemps, il y a beaucoup de chiennes qui sont en chaleur. Là, c'est la période. Et il va peut-être pas arrêter de fuguer, justement, parce que bah il va y prendre goût, hein.
C'est normal. Oui.
Donc Maggie, allez voir votre vétérinaire, demandez à cette stérilisation chimique qui est réversible, hein, je vous rassure. Ou alors faites-le stériliser tout d'un point de vue chirurgical.
De manière radicale.
Voilà, tout simplement.
Pour Jean-Luc Moreau, on peut commencer peut-être par la stérilisation chimique, comme ça au moins c'est réversible.
6 mois ou un an ?
Je pense un an pour commencer, non ? Je pense que dans le quartier, ça changerait quand même beaucoup
ça peut rassurer
l'ambiance.
Vous avez peur que je fugue du studio, c'est ça ?
C'est ça. Alors que si on vous stérilise,
oui,
il y aura plus de problème.
Je vais rester là toute la semaine.
Voilà.
Bon. Bah écoutez, c'est pour. De toute façon, l'implant est pour un chien allant de 2 kilos à 60 kilos, voire plus.
On va mettre deux implants. Ou alors on fait la castration, on va dire définitive, Laetitia.
Oui,
je pense que vous avez tous vos outils sur vous.
Non, mais là, je le ferai pas.
Non, bien sûr que non. Ouais.
J'aurais fait depuis longtemps, sinon.
D'accord.
Eh ben voilà.
Bon, je vais y aller. Hein.
C'est bon, hein.
Oui.
Vous avez bien fait de venir, Jean-Luc.
Oui.
En tout cas, Maggie, merci.
Merci,
de nous
Maggie,
avoir
pour votre appel.
Et bon dimanche à vous.
Laetitia, on se quitte avec une petite vidéo que vous avez sélectionnée, qui est très drôle. C'est une poule qui couve non pas des œufs, mais.
Mais surprise, un petit chaton.
Alors, chaton.
C'est génial parce qu'on voit, le propriétaire de la poule rentrer dans le poulailler et puis bon, il arrive, on voit une poule qui est en train de couver. Bon,
donc on se dit, bah voilà,
qu'est-ce qui va se passer,
quoi. Elle couve des œufs.
Voilà, et elle part. Et qu'est-ce qu'on trouve sous la poule ? Un petit chaton. C'est trop mignon.
C'est trop sympa, hein, quand même. C'est un instinct maternel, finalement, chez la poule.
Puis ça doit être bien chaud sous la poule. Hein.
C'est sûr. Bon, il faut quand même que le petit chat arrive à respirer dessous. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera là à 6h-8h sur RMC.
Je vous souhaite une très bonne journée, même sous la pluie.
Oui.
En tout cas, une très bonne journée, une très bonne semaine et à la semaine prochaine, à dimanche.
Dans un instant, Jean-Luc Moreau me rejoint pour 2 heures dédiées à l'automobile avec vos questions auto au 3216. À tout de suite après la météo et les infos.